tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Critique. Chaque mois sur La Grenouille, un auteur ou une auteure vient débroussailler en votre compagnie un champ de la pensée critique. Critique.
Un champ qui résonne avec l'actualité marseillaise.
Une émission proposée et présentée par Nicolas Heringer et Emmanuel Riondet.
À écouter maintenant dans tous vos états critiques.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grenouille pour une heure d'exploration de l'actualité des pensées critiques. Ce mois-ci, dans Critique, nous recevons Éric Fassin. Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 8 et vous avez récemment publié « Gauche, l'avenir d'une désillusion » paru aux éditions textuelles et également contribué à l'ouvrage « Roms et riverains, une politique municipale de la race » paru à La Fabrique, écrit avec Karine Fouteau, Serge Guichard et Aurélie Windels. Et ensemble, nous allons parler de la gauche ainsi que de la question Rome. En fait, nous allons nous pencher sur un gouffre béant, abyssal, celui qui sépare les deux citations suivantes et dans lequel se joue, sans doute, la capacité de la gauche de gouvernement à reprendre la main et à oser agir à nouveau. Et c'est là, dans cet espace, également, que se situent donc les discussions sur les alliances et les stratégies de l'autre gauche, de la gauche de la gauche. Deux citations, donc, que séparent à peine 18 mois. La première, en forme de promesse électorale, est de François Hollande, au Bourget, en janvier 2012. « Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. » Je suis un optimiste de la volonté. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. L'histoire n'est pas l'addition des fatalités successives, elle nous enseigne qu'il y a toujours plusieurs chemins. La voie que je vous propose, c'est le redressement dans la justice, c'est l'espérance dans la promesse républicaine. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société, et même de nos vies. La seconde citation date de septembre 2013. Il n'est plus question de promesses, mais de justifier une politique en cours. C'est Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui parle, et qui parle des Roms. J'aide les Français contre ces populations contre les Français. Elles ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres, et qui sont évidemment en confrontation. Les Roms ont vocation à rester en Roumanie, à y retourner. Entre les deux citations, la victoire à la présidentielle de François Hollande et un renoncement, celui de combattre les ravages de la finance, qui implique de trouver de nouveaux adversaires, d'identifier d'autres dangers, d'autres risques contre lesquels nous protéger. Et depuis, évidemment, l'écart s'est creusé. La première citation s'est définitivement effacée derrière le pacte de responsabilité, tandis que l'auteur de la seconde est devenu Premier ministre.
Critique,
l'entretien.
Bonjour Éric Fassin.
Bonjour.
Dans votre bref essai dont vient de parler Nicolas, « Gauche, l'avenir d'une désillusion », qui vient donc de paraître chez Textuel, vous vous attaquez donc au renoncement de la gauche gouvernementale actuelle en France. Une gauche qui ne jure plus que par un supposé réalisme, notamment en matière économique et sociale, tenant un discours qui fait écho aux « There is no alternative » de Thatcher et indique qu'il ne s'agit plus de changer le monde, mais de l'administrer, de le gérer. Mais on peut dater en fait, et vous le rappelez d'ailleurs, à 83 avec le tournant de la rigueur durant le premier septennat de Mitterrand, le début très net de cette désillusion socialiste. Donc la première question est simple. Qu'y a-t-il de nouveau aujourd'hui, de neuf, de plus renoncé dans l'usage du pouvoir par le Parti Socialiste ?
D'un côté, en effet, on peut avoir un sentiment très fort de continuité, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se répète, un petit peu comme par exemple la promesse d'ouvrir le vote aux étrangers non communautaires. On la connaît depuis les années 80 et on voit à chaque fois les renoncements. Donc, d'un côté, c'est toujours la même histoire. Mais d'un autre côté, ça n'est plus tout à fait la même histoire. D'abord parce que François Hollande, à la différence de ses prédécesseurs, a changé de cap, c'est-à-dire a accepté, a entériné, a embrassé avec enthousiasme la droitisation dès son élection. Il faut se rappeler que dès le mois de juin, François Hollande se rendait en Grèce pour dire aux Grecs qu'il ferait mieux de ne pas voter pour Syriza sous peine de se voir exclu de l'euro. Donc c'est dès le mois de juin et c'est dès l'été 2012, donc presque au lendemain de l'élection présidentielle, que on voit Manuel Valls lancer une campagne contre les Roms qui fait écho directement à celle qu'il avait dénoncée 2 ans plus tôt lorsque c'était Nicolas Sarkozy. C'est la première phrase du livre « Roms et riverains » que nous citons en 2010. Manuel Valls disait « On désigne des populations à la vindicte ». Et c'est ce qu'il fait en 2012. Donc ça se fait très vite. Mais il y a un élément qui fait peut-être la différence avec les années 80, c'est qu'on mesure mieux aujourd'hui ce que c'est que le néolibéralisme. Le paradoxe, c'est que François Hollande déclare assume, nous dit-on, d'être social-démocrate à un moment où le Parti socialiste renonce radicalement, et en particulier François Hollande, à la social-démocratie. On nous dit qu'il assume, en réalité, il enterre. Et il enterre la social-démocratie parce que la social-démocratie, elle suppose d'arbitrer entre les exigences contradictoires du patronat d'un côté, des syndicats de travailleurs de l'autre. C'est un discours de compromis. Mais là, il n'y a pas de compromis. On le voit bien avec le pacte de responsabilité. Le seul interlocuteur, ce ne sont plus donc les syndicats de travailleurs, c'est le patronat. Donc il y a véritablement un changement, c'est qu'on n'est plus dans la social-démocratie, au moment même où on dit qu'on y entre, en fait, on en sort parce qu'on est dans une politique qui n'est pas social-libérale, comme certains le disent, parce qu'elle n'est pas sociale et parce qu'elle n'est pas libérale. Le néolibéralisme, c'est le fait, non pas que l'État se retire de l'économie, mais au contraire, qu'il agisse dans l'économie au service des marchés. Et c'est ce que fait la France aujourd'hui, sous Nicolas Sarkozy hier et sous François Hollande aujourd'hui.
Alors, ce que vous évoquez aussi dans Gauche, l'avenir d'une désillusion, c'est que précisément ce moment où François Hollande s'assume publiquement comme étant social-démocrate, mais que c'est en fait un renoncement, est salué quasi unanimement dans la presse comme une libération, comme l'émergence au fond d'un nouveau président.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et j'imagine que je ne suis pas le seul. On aurait pu imaginer que beaucoup allaient protester en disant « mais ça ne veut rien dire ». Comment peut-il prétendre être social-démocrate alors même que sa politique est tout le contraire de la social-démocratie ? En fait, on a eu plutôt le sentiment que la gauche modérée trouvait que, enfin, il assume, il est ce qu'il devrait être et il le dit. Ce qui m'a posé question, comment comprendre cet aveuglement ? Et je crois qu'on doit le comprendre par le fait qu'il est très coûteux aujourd'hui de reconnaître que le gouvernement n'est pas un gouvernement de gauche. Vous parliez tout à l'heure de la gauche gouvernementale, j'évite désormais ce terme. J'ai publié une tribune il y a quelques mois sur la droitisation du Parti socialiste et je me suis rendu compte que certaines des critiques les plus farouches que je recevais venaient non pas des gens qui contestaient la thèse en général, mais qui contestaient qu'on continue d'appliquer le mot gauche à ce gouvernement. En fait, effectivement, la question se pose de savoir comment on fait une fois qu'on a reconnu que ce n'est pas un gouvernement de gauche. Et donc la question n'est plus simplement de parler de la gauche, puisque ça sous-entendrait que le Parti socialiste incarne aujourd'hui une gauche. De fait, la question qui se pose pour nous tous aujourd'hui, c'est celle d'une gauche de gauche. Donc on n'est pas dans une rupture avec une gauche modérée, on est dans le fait de prendre conscience que ça n'est pas une gauche modérée, mais une droite qui n'est pas si modérée, qui est aujourd'hui au pouvoir. Et ça, c'est un problème, pas simplement pour la gauche, c'est un problème démocratique. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, si la droite et la gauche disent la même chose, alors pourquoi les électeurs se déplaceraient-ils ? Certains s'abstiennent. Ce sont plutôt des électeurs de gauche. D'autres donnent raison au Front National, qui parle du MPS, et donc pour qui il n'y a pas de différence. Donc en fait, c'est très dangereux pour la démocratie lorsque, comme aujourd'hui, le gouvernement fait la même chose que celui qu'il est censé remplacer et contre lequel il a été élu.
On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur la gauche de gauche notamment, mais est-ce qu'on pourrait en quelques mots nommer, catégoriser quelques-uns, parce qu'au cœur de cette dérive droitière du PS, il y a des renoncements à des valeurs. À quoi il renonce aujourd'hui le Parti socialiste ?
Alors, en fait, on pourrait distinguer trois grands domaines. Il y a l'économie. Et sur l'économie, on voit bien que, par exemple, il n'est pas question de grandes réformes fiscales. On voit bien que la rupture avec le traité Mercosy qui avait été dénoncé, eh bien, elle n'a pas eu lieu. Et on voit bien que, en fait, d'avoir pour ennemi la finance, aujourd'hui, François Hollande a pour ami le patronat. Donc, dans le domaine économique, les choses sont assez claires. Je crois que personne ne s'y trompe. On aurait pu imaginer que cette politique néolibérale s'accompagne d'une forme d'ouverture en matière d'identité nationale et d'immigration, pour reprendre les termes de Nicolas Sarkozy. En fait, pour ce qui concerne l'immigration, on constate bien plutôt une continuité. Certes, on nous dit qu'il n'y a plus de quotas, mais néanmoins, on nous donne des chiffres d'expulsion qui montrent qu'on est à peu près au même niveau qu'avant. Et pour ce qui concerne la politique à l'égard des Roms, on a non seulement une continuité, mais sans doute une aggravation, parce que précisément, aujourd'hui et depuis le 1er janvier, les populations Roms en France, celles qui vivent dans les bidonvilles, sont en fait pleinement européennes. Elles ne sont plus dans cette période de transition qui a duré de 2007 à 2014, et donc on les persécute d'autant plus. Donc en matière on pourrait dire, identitaire, il y a aussi une continuité, même si elle est sans doute moins affichée. On a moins les grands débats sur l'identité nationale ou sur l'islam qu'on avait eu avec Nicolas Sarkozy. Néanmoins, on a une continuité. Et il y a un troisième domaine qui est intéressant, c'est le domaine des questions sexuelles.
Mmh. Et le mariage pour tous.
Avec en particulier le mariage pour tous. Et là, on a eu le sentiment, après l'élection de François Hollande, que c'était le seul domaine où le Parti Socialiste revendiquait hautement une différence avec la droite. De fait, c'est un domaine de très grande polarisation dans la vie politique, à la fois dans la rue, mais aussi dans les sondages. On s'aperçoit que l'écart est maximal ici entre les électeurs de gauche et les électeurs de droite. Simplement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le gouvernement de Manuel Valls vient confirmer ce qu'on avait déjà pressenti avec l'adoption de la loi Taubira de 2013, c'est que ça suffit. On n'en fera pas plus. Et un exemple aujourd'hui, c'est la loi famille qui est vidée de tout contenu quasiment pour se réduire à un aménagement avec en particulier un statut du beau-parent éventuel. Mais ça, cet aménagement n'empêche pas, bien entendu, la droite de se déchaîner au nom d'une famille qu'elle qualifie de biologique.
Et donc là aussi, il y a un renoncement notamment à l'élargissement de la PMA aux couples de même sexe.
Alors, effectivement, il y a un renoncement. Il y a eu une réforme. Ça n'est pas rien, mais ce qui est frappant, c'est que très clairement, on nous dit maintenant c'est fini, parce qu'on va se consacrer aux choses sérieuses, et les choses sérieuses, eh bien, c'est la politique économique, et c'est la politique économique néolibérale. Donc, ceux à gauche qui déploraient qu'on soit distrait des vrais enjeux économiques en raison des débats, des querelles, des polémiques autour du mariage pour tous, peuvent être rassurés, nous ne sommes plus distraits. La seule chose aujourd'hui avec laquelle on tente de nous distraire, eh bien, c'est la question Rome. Et tant qu'à faire, on peut regretter de n'être pas distrait par l'accroissement des droits pour les personnes homosexuelles. On préfère l'être plutôt que par la régression des droits pour les populations roms. Mais en tout cas, il est clair qu'il n'y a plus de distraction positive, c'est-à-dire d'élargissement des droits. Il reste une politique néolibérale et son envers, la politique à l'égard des roms.
Alors cette série de renoncements, elle est aussi assise ou construite à partir d'un certain nombre de renoncements intellectuels et dans la bataille des idées. Dans la citation de François Hollande que j'ai mentionnée au début, quand il dit « je suis un optimiste de la volonté », c'est une citation de Gramsci. Hein, c'est Gramsci qui parlait de pessimisme de la raison, d'optimisme de la volonté. Et là, il semblerait qu'il y a aussi, au fond, un abandon de tout travail intellectuel et d'élaboration stratégique de la gauche. Il y a eu certes l'expérience Terra Nova, mais il semblerait que ce soit plutôt... Voilà, qu'on se coupe un peu des milieux intellectuels progressistes et qu'on fasse sienne les idées notamment de Thomas Frank, que les pauvres votent à droite et donc il faut suivre ce mouvement vers la droite de l'électorat populaire.
Alors effectivement, il y a ce que j'appelle, mais je ne suis pas le seul, une hégémonie idéologique de la droite, pour refaire écho à Gramsci. Cette hégémonie, elle a été marquée dans notre langage commun par l'expression de « droite décomplexée ». La droite décomplexée, on ne l'a peut-être pas assez dit tellement c'était évident, ça renvoie aussi à une gauche complexée. C'est-à-dire que s'il y a une gauche honteuse, il y a en face une droite éhontée. Donc le couple constitué par la gauche et la droite, c'est cela qui nous permet de comprendre, et pas simplement l'évolution de la droite. La droitisation, c'est tout autant le fait de la majorité socialiste d'aujourd'hui. En fait, on le voit bien, la gauche... ou du moins ce qui s'appelait naguère la gauche, imite la droite imite l'extrême droite. Le seul problème, c'est de comprendre pourquoi cela n'a pas libéré un espace à gauche. On a l'impression que si tout le paysage se déporte vers la droite, eh bien, ça va laisser une ouverture. Ça n'est pas particulièrement le cas. On ne s'attend pas à ce que dimanche, par exemple, aux élections européennes, on assiste à un triomphe de la gauche de gauche. C'est bien plutôt du côté du Front National qu'on attend un succès. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant et qui renvoie précisément à l'hégémonie idéologique de la droite. Si la droite a imposé ces termes dans le débat public en matière d'économie, avec la notion de réalisme qui, bien entendu, n'a rien de réaliste, avec la notion de problème de l'immigration, alors que, pour ma part, je propose de distinguer en disant que l'immigration n'est pas un problème, mais que, bien sûr, il y a des problèmes qui peuvent être liés à l'immigration, comme il y a des problèmes qui sont liés à l'école, comme il y a des problèmes qui sont liés à la famille. Bref, tant que la droite continue d'imposer son langage, c'est-à-dire tant que la gauche officielle officiels parlent le langage de la droite, il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas une ouverture, l'ouverture d'un espace à la gauche du gouvernement socialiste.
Alors justement, on va écouter une bande ethnique à elle toute seule, c'est La Rumeur.
Disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus massailles sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. C'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000. Quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus. Qui sont les vrais stars du JT? Les gentils condés ou les grands méchants noirs? Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver.
À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale tic à jurer à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque, au fond de la gorge. De sorte que la BAC t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le coffre, les tracts qui traînent. Manif contre le maire, ta malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeux. À la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harache qui affole la signalétique. Affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent, qui traînent, qui baffent, mais jamais ne demandent. Sans compter cette grande gueule, je suis bon qu'à jacter, brailler, railler, insulter, becter. Ses pieds qui ont couvert de la distance. Obligé de courir encore plus vite que les flics. Je pense avoir ce cocktail du parfait Morico pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Y'a de quoi s'énerver. Tout niquer, tout baiser, tout péter, tout démonter, tout brûler, tout défoyer.
Critique, l'entretien.
Alors Éric Fassin, face à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir ces multiples renoncements de la gauche qui l'inhibent plutôt que de la libérer, cette droitisation d'une partie de la gauche qui ne libère pas la gauche du Parti Socialiste notamment, il est assez tentant au fond de céder à ce que vous appelez la tentation gauchiste, c'est-à-dire de renvoyer dos à dos droite et gauche et de se dire au fond, ce qui se passe au Parti Socialiste ne m'intéresse plus, je ne m'en préoccupe plus, je ne vote plus pour eux et je me situe à l'extérieur de cet espace.
Alors effectivement, j'ai écrit un texte sur ce que j'ai appelé avec un peu d'ironie la tentation gauchiste. L'ironie venait du fait que, contrairement à mon usage, j'écrivais à la première personne, c'est-à-dire, en quelque sorte, je partageais mes états d'âme, ce qui est pour moi plutôt inhabituel.
Un texte sur Mediapart qu'on mettra en lien sur le site.
Voilà, et donc ce que j'avais posé comme question, c'est comment on fait pour ne pas entériner l'idée que finalement... c'est bonnet blanc et blanc bonnet, pour utiliser une autre formule, c'est-à-dire que il y a pas de différence. Et j'espérais qu'il y aurait des tentatives de la part du gouvernement socialiste de donner des gages d'une différence avec la droite. Ça a été un peu le cas avec la question du mariage pour tous, ça n'est plus le cas du tout. Donc la question classique, c'est que faire ? Eh bien, pour ma part, je crois que, après tout, cette différence entre la droite et la gauche, on ne peut pas compter sur le Parti socialiste aujourd'hui pour la produire. Ça veut dire qu'il faut compter d'une part sur les partis qui sont à la gauche du Parti socialiste, mais aussi d'autre part sur nous. Nous, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la politique gouvernementale, mais il y a aussi la politique non gouvernementale. Et là, j'emprunte une expression au philosophe Michel Ferrer, avec qui je travaille beaucoup. La politique gouvernementale, c'est les élections. Et les élections, bien sûr, ça compte. Et donc, il est important que les partis politiques, tels que le NPA, tels que le Front de Gauche, essaient de réfléchir à changer de langage, c'est-à-dire à nous proposer des termes nouveaux pour penser ce qui est en train de se passer. Un des éléments pour moi très importants concerne l'opposition qui nous est souvent proposée entre le social et le sociétal. Je récuse cette opposition puisque lorsqu'on dit sociétal, on renvoie aux questions de femmes, aux questions d'homosexuels, aux questions de minorités raciales, comme si c'était pas social. Bien entendu, c'est tout aussi social. Il n'y a pas des choses qui seraient plus sociales et des choses qui seraient moins sociales. La règle toute simple, c'est que la société, c'est du social. Mais à partir de là, pourquoi est-ce qu'on fait cette division ? Eh bien, parce qu'on veut dire qu'il y a des choses sérieuses et des choses qu'il serait moins. C'est ce que pensent beaucoup de gens de droite. Mais c'est ce que pensent aussi, souvent, des gens de gauche qui sont tentés de penser que, après tout, les seuls vrais enjeux, c'est les enjeux de classe. Mais ce que je suggère, c'est que, ici, il y a une responsabilité collective, et en particulier des partis, de récuser ces termes. Après tout, si on parle de réforme des retraites, on sait bien que ces réformes, elles affectent au premier chef les femmes. C'est-à-dire que la question de classe, c'est aussi une question de genre. Si on parle des politiques de discrimination, on peut se dire que c'est des questions sociétales. Mais en même temps, qui est-ce qui habite dans les quartiers difficiles, dans les quartiers sensibles ? Eh bien, très souvent, les classes populaires, elles ne sont pas uniformément blanches. On est dans une France aujourd'hui où les discriminations, elles renvoient à des logiques de classe. Donc d'un côté, les questions sociétales sont les questions sociales. De l'autre, les questions sociales sont les questions sociétales. Donc cette opposition n'a pas de sens.
Oui, excusez-moi. Alors précisément, dans votre ouvrage, vous ne vous contentez pas, évidemment pas de lister les renoncements de la gauche, mais vous parlez aussi, et c'est même le titre d'un des chapitres, de la nécessité de reprendre la main. Et parmi les choses sur lesquelles il semble qu'il soit urgent de reprendre la main, il y a effectivement ces oppositions qui ont été construites, on a l'impression, de façon assez récente, par la droite, mais aussi par la gauche, entre questions raciales et questions de classe, qui opposent les classes populaires aux minorités visibles, les quartiers populaires à des périphéries devenues soudain invisibilisées. Et puis aussi, on y reviendra quand on parlera des rentaires, les riverains et les bobos. Que faut-il comprendre de ces nouvelles oppositions et comment, là, sur ça, reprendre la main ? Parce qu'il semble que ça soit assez urgent aujourd'hui.
Que la droite, et en particulier la droite populaire, joue de ces clivages est dans l'ordre des choses. Ce qui est plus inquiétant, c'est lorsque des gens le font au nom de la gauche, y compris d'une gauche réputée populaire. Alors, de ce point de vue...
Cette insécurité culturelle dans laquelle seraient plongés
voilà. Les Français. Et quand on nous dit que les Français seraient plongés dans la sécurité culturelle, eh bien, ça sous-entend que ces Français, ils auraient un besoin d'identité nationale, qu'ils auraient un besoin de célébrer une sorte de France éternelle. Le problème, c'est que ça considère que les Français d'origine plus récente ne seraient pas tout à fait Français. C'est-à-dire que l'insécurité culturelle des descendants d'immigrés n'est pas comprise dans ce discours sur l'insécurité culturelle. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on constate ? Que certes, il y a eu la Fondation Terra Nova qui avait, il y a 2 ans, publié une note catastrophique où elle proposait une politique opposant le peuple aux minorités en particulier, en disant « puisqu'on a perdu le peuple, au moins essayons de garder les minorités ». À cette proposition désastreuse pour la gauche répondait une proposition non moins désastreuse d'une gauche qu'on peut dire populaire qui disait « choisissons le peuple contre les minorités, choisissons la France périurbaine contre la France des banlieues, choisissons en fait les petits blancs contre les jeunes des quartiers ». Ce qui me paraît désastreux dans cette opposition pour une gauche quelle qu'elle soit, c'est que ça revient à accepter les termes qui étaient ceux de Terra Nova, quitte à les inverser. Les termes de Terra Nova, c'est il y a d'un côté le peuple, de l'autre les minorités. C'est faux empiriquement, puisque les minorités sont beaucoup dans les classes populaires, et inversement, les classes populaires sont beaucoup de couleurs. Donc c'est faux empiriquement. Mais surtout, c'est très grave politiquement, puisque ça revient à monter un peuple contre un autre, c'est-à-dire ça revient à instituer une politique d'un peuple blanc au nom de la gauche. Que la droite le fasse, ça n'est pas surprenant et ça n'est pas nouveau. Que la gauche se laisse prendre à ce discours, eh bien, ça fait partie de cette hégémonie idéologique de la droite qui me paraît extrêmement dangereuse. Donc, je crois qu'il faut essayer de penser que le peuple, eh bien, ça n'est pas le petit peuple blanc. Le peuple, il faut essayer de le réfléchir en incluant la question des minorités et non pas en la posant à côté. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité, y compris une réalité qui est concrétisée par les mariages ou par les couples qui ne sont pas uniformément blancs d'un côté, uniformément noirs ou uniformément arabes de l'autre.
Alors, face à cela, il y a aussi la gauche dite associative ou syndicale qui semble avoir en partie renoncé aussi. En tout cas, sur la question des Roms, c'est assez clair. Il y a une apathie à peu près totale. Mais il a fallu, en gros, que la droite s'en prenne à Christiane Taubira pour qu'il y ait un peu de réaction autour du retour du racisme. Avant cela, c'était un peu le silence, pas de pression mise sur le gouvernement.
D'abord, il faut remarquer que ce gouvernement n'a pas de politique de lutte contre les discriminations raciales. On serait bien en peine de dire une mesure qui a été prise par ce gouvernement dans ce domaine. En revanche, on se souvient bien que sous la pression de Manuel Valls, la présidence de François Hollande a renoncé à entraver les abus policiers discriminatoires avec une mesure simple comme les récépissés pour les contrôles au faciès, qui aurait permis de mesurer les discriminations et donc qui aurait été un levier pour essayer de faire bouger les choses. De même d'ailleurs, bien sûr, l'ouverture du droit de vote aux étrangers non communautaires serait un levier pour faire bouger les choses parce que c'est pas simplement une question de principe, c'est aussi la possibilité de faire que les partis de droite se rendent compte qu'il est coûteux de jouer de la xénophobie. Donc il y a un basculement. Ce basculement, c'est que effectivement, aujourd'hui, on entend très peu de discours sur les questions raciales. En revanche, on a vu, premièrement, que ce gouvernement, ou plutôt cette majorité, effaçait le terme de race du droit. Supprimer le mot race du droit, ça peut paraître sympathique. On a l'impression que c'est une trace d'un racisme ancien. Mais en fait, à quoi servait le mot race dans le droit ? Il servait à dire qu'il fallait procéder sans distinction de race, c'est-à-dire sans discriminer. On efface le mot race. On ne mène pas de politique antidiscriminatoire. Bien sûr, on finit par s'indigner au bout d'un long délai, on finit par s'indigner des attaques racistes contre Christiane Taubira. Mais cela me paraît presque plus inquiétant encore, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on s'inquiète, à juste titre bien sûr, des attaques contre Christiane Taubira? Eh bien on dit, regardez, il y a d'un côté les racistes, qui sont en général d'extrême droite, et de l'autre, bien sûr, ça veut dire que tous ceux qui protestent contre ce racisme d'extrême droite n'auraient rien à voir avec le racisme. Or, lorsqu'on voit à la mutualité, à côté de Christiane Taubira, Manuel Valls, qui apparaît comme son meilleur défenseur et qui dit avec orgueil « nous formons un beau couple », eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je suis une sorte d'emblème de l'antiracisme ». Manuel Valls, qui, au même moment, est poursuivi à l'époque par le MRAP, comme il l'est aujourd'hui par la Voix des Roms, pour les propos qu'il a tenus en 2013 à l'encontre des Roms. Donc d'un côté, on semble avoir une petite prise de conscience tardive du racisme dès lors qu'il vise Christiane Taubira. On ne se soucie pas, de l'autre, du racisme dans la société en général, mais surtout, on efface la politique de la race qui est menée par ce gouvernement, et en particulier à l'encontre des populations roms.
Et vous rappelez d'ailleurs que Manuel Valls, à ce moment-là, à ce moment précis, dit que, au fond, tout ça rend un fier service au gouvernement.
Effectivement, il ne dit pas au gouvernement, mais il ne précise pas exactement à qui ça rend service. Et du coup, on est amené à se dire que, manifestement, il est très content de cette occasion. Parce que Manuel Valls apparaissait jusqu'alors comme l'homme de la chasse aux Roms. À partir du moment où il peut prendre le parti noblement de Christiane Taubira, à partir du moment aussi où aujourd'hui Christiane Taubira accepte de rester dans le gouvernement dirigé par Manuel Valls, eh bien c'est une manière, si l'on peut dire sans mauvais jeu de mots, de blanchir la politique de Manuel Valls, c'est-à-dire de le dédouaner des attaques sur le front du racisme.
Alors on va parler de la chasse aux Roms, on va parler de ce que la politique que mène le gouvernement contre les Roms nous dit de la gauche tout de suite, après avoir écouté un petit reportage d'Emmanuel qui allait rencontrer Rencontre de Cigane justement.
Critique marseillaise en mouvement.
Je m'appelle Caroline Godard et je suis responsable du centre ressources et documentation de l'association Rencontre Cigane. Donc Rencontre Cigane, c'est une association qui a maintenant un peu plus de 10 ans et qui a été créée par Alain Fourest notamment et d'autres personnes pour combattre les discriminations que subissaient et que subissent toujours ce qu'on appelle les gens du voyage, enfin les ciganes français pour faire court, et qui naturellement, bon, au fil des ans, s'est intéressé à la problématique des Roms venus d'autres pays d'Europe. Donc en bidonville, que ce soit sur des terrains avec des cabanes, dans des squats, sur Marseille, c'est environ 1500 personnes, et sur le département, ça représente 2000 personnes. Ça concerne des squats de dimensions très variables, des endroits où vous avez dans une maison squatté une dizaine de personnes, jusqu'à des squats, des bidonvilles plus importants. Actuellement, le plus important, c'est chemin de Saint-Jean-du-Désert, où il y a plus de 400 personnes. Je parle de Roms qui vivent en bidonville, et dont je ne connais pas le nombre, ceux qui ne vivent pas en bidonville, parce que je n'ai pas à le savoir. Donc c'est une précision, à mon avis, importante, sinon on a trop facilement l'équation « tous les Roms vivent en bidonville ». La politique qui est menée à l'égard de cette population, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une occupation qui est considérée comme illicite, donc il y a une assignation en justice, et puis donc une expulsion qui suit, on ne fait que déplacer le problème, parce qu'on sait très bien que ces familles qui sont là à Marseille, elles ont maintenant un ancrage local, dans cette ville. Elles y vivent depuis des années, elles n'en partiront pas. Donc penser qu'en les expulsant d'un lieu, c'est les faire repartir je ne sais où, rentrer en Roumanie, c'est complètement illusoire, puisque pour beaucoup, elles sont là depuis des années, scolarisent leurs enfants, et les enfants qui naissent, enfin là, il y a une nouvelle génération de migrants qui s'installent à Marseille et qui ne repartira pas. Donc on est dans ce processus sans fin d'expulser d'un lieu à l'autre et de déplacer sans arrêt ces familles. La couverture médiatique, elle est inversement proportionnelle au nombre de personnes que ça concerne. C'est parmi les vagues migratoires, là, une des plus faibles qu'on ait connues. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'arrivées de personnes de l'Afrique du Nord, de Comoréens des autres époques, d'Italiens. Et si on revient un petit peu en arrière, à quel moment ça a vraiment été très présent dans le débat médiatique? C'est vrai que c'est sous l'ère de Sarkozy, hein, c'est les années 2010. C'est là qu'on en revient toujours à ce point où effectivement on parlait des Roms avant, mais pas tellement. Mais le fameux discours de Grenoble de l'été 2010, ça marque vraiment l'irruption de, entre guillemets, la question Roms dans le débat public de façon très très importante. Et là, il a fait tout un amalgame sur... D'abord, il confondait ce qu'étaient les voyageurs, enfin les voyageurs, les ciganes français, donc qui sont des citoyens français depuis des siècles, voilà. Les Roms, et puis là, c'est lui qui a amené cette Rome égale délinquance, et qu'il a mis en place cette politique de ce qu'il appelait le démantèlement des campements illicites. Hein. Cet été 2010, où on détruit énormément de bidonvilles en France, je vous invite à relire les propos de Valls à cette époque. Qui criait à la stigmatisation, comment peut-on avoir une politique pareille? Je vous assure, enfin, relisez ses propos. Enfin, la gauche, entre guillemets, à ce moment-là, Parti Socialiste, s'est beaucoup offusqué de la politique qui était menée par le gouvernement de l'époque. Donc Valls, il a repris, donc il se situe dans la lignée des politiques précédentes, c'est-à-dire démantèlement de campements illicites, mais il a tenu aussi des propos, il a été très loin, hein, quand il parle d'une question de culture, enfin, qui dit que ces gens-là n'ont pas vocation à vivre en France pour des raisons culturelles ou que leur mode de vie serait incompatible avec les nôtres, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il faut qu'il m'explique, qu'est-ce que ça veut dire le mode de vie ces gens-là vivent dans des villes en ville, c'est pas un choix, c'est subi et c'est pas choisi. Donc je crois qu'il a été même au-delà de ce qu'avaient pu dire ses prédécesseurs. Hein. Il n'y a pas de rupture, c'est la même politique, même si suite au propos de Valls, il y a quand même eu le Premier ministre, Hérault, qui a nommé une délégation interministérielle qui s'appelle la DIAL et qui l'a chargé de traiter la question des Roms. Mais on voit bien que ce préfet, il a une marge de manœuvre extrêmement réduite. Avec le collectif Rome Europe, où on s'interroge un peu sur les plaidoyers, de quelle façon on doit les mener. Et ce qui fait débat actuellement, c'est qu'on se dit, d'une part, il faut combattre les discriminations et constater que c'est la haine, le rejet, le préjugé qui amène à ces discriminations. Et d'autre part, ne plus parler de mener une politique pour la résorption des bidonvilles. C'est pour ça qu'on ne parle plus de campement, de campement illicite, parce que là on est sur une notion justement sécuritaire, mais de bidonville, parce que c'est dénoncer la précarité. Donc ces glissements sémantiques, ils ont un sens, parce qu'ils désignent des choses différentes. Quel est le coût de cette politique d'expulsion? Quel est son coût depuis des années, hein? Et ça, on va peut-être pouvoir travailler là-dessus et voir qu'une expulsion, ce que ça coûte en intervention des forces de l'ordre, ce qui est en amont, les procédures, le machin. Mais on se dit aussi qu'il faut être extrêmement prudent sur ce type de communication, parce que ça peut se retourner contre ceux qui plaident pour dénoncer ça. Parce qu'en gros, on va dire, mais c'est nous qui payons, c'est nos impôts qui paient, regardez ce qu'ont fait les Roms. Alors bon, on parle de bouc émissaire, d'une période de tension sociale extrêmement forte, de fait, toutes ces choses-là, mais là, il y a quelque chose qui me sidère dans la violence des propos. De la part des élus, il y a des propos qui ont été tenus d'une violence extrême. Bah oui, effectivement, ça légitime les propos que peuvent tenir certains, puisque même au plus haut niveau, on s'exprime de cette façon-là. Alors, nous, on a pris le parti, nous, je dis nous, d'autres associations, de ne pas banaliser ces propos de politique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont tenus de les attaquer en justice, parce que c'est pas tolérable. Un des bidonvilles les plus importants de la région parisienne, 600 personnes, c'est 30 secondes dans un journal du matin, et c'est, on vous dit, les gens sont partis avant, donc pas de problème, ils sont partis, hein. Et tout s'est bien passé, c'est communiqué de la préfecture. Alors c'est vrai que les gens maintenant ont appris à anticiper quand même, parce qu'ils en ont eu ras-le-bol de voir débarquer la police à 6h du matin, tout leur démolir. Donc effectivement, ils partent avant parce qu'ils, moins ils conservent le peu de choses qu'ils avaient. Mais du coup, ça pose plus problème. Où sont passées ces 600 personnes? Personne ne s'interroge. Elles sont où? Elles sont pas volatilisées. Il y a des jeunes là maintenant qui se montent en association, qui ont conscience, qui se politisent entre guillemets, qui ont décidé qu'il fallait plus qu'ils parlent tous, enfin qu'ils soient seuls, mais qu'ils expriment, qu'ils s'organisent. Mais comme on l'a vu avec les migrants, les maghrébins, les premiers sont arrivés, ben ils ont subi ce qu'ils ont subi, et puis la génération d'après, elle a acquis une conscience politique, elle s'est battue pour défendre ses droits. Et là, elle arrive, cette génération, Dieu merci, de jeunes, enfin, ils sont très peu nombreux encore, hein, mais qui ont l'intention de se battre.
Critique marseillaise en mouvement.
Voilà, alors on vient d'entendre Caroline Godard, que vous avez vu hier avec Fassin, nous parler un peu de la question Rome vue de Marseille. Il y a beaucoup de choses dans son intervention, j'ajoute quand même deux choses. Tout d'abord que nous l'avons rencontrée ici à Marseille au lendemain de son retour de Toulouse, où elle se trouvait le week-end du 17 et 18 mai pour une rencontre du collectif Rome Europe. Et ensuite que les habitants du plus grand bidonville Rome de Marseille dont elle parle, celui qui est situé à Saint-Jean-du-Désert, devrait être expulsé le 17 juin prochain. Et que cela devrait conclure une séquence inédite qui a vu en février dernier la mairie de Marseille attaquer l'État, via la préfecture au tribunal administratif, pour lui demander d'être moins laxiste sur les expulsions. En mars, la ville a été déboutée, mais cette passe d'armes juridique en dit long sur le climat qui s'est instauré dans le pays autour de cet enjeu. On en vient donc à votre deuxième ouvrage, Éric Fassin. Alors, première question pour entrer sur cette question Rome, que vous inspire ce témoignage d'une actrice de terrain qui nous a parlé, elle aussi, on l'a entendu, des renoncements du PS sur cette question devenue si emblématique?
Oh, je crois que je la rejoins sur tous les points. Ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque le livre sur Roms et riverains, il est coécrit avec des journalistes, mais aussi, donc Karine Fouteau et Aurélie Windels, mais aussi avec un militant de terrain, Serge Guichard, et qui a été permanent au Parti communiste français pendant très longtemps et qui a continué son engagement politique après sa retraite en tant que militant sur les questions Rome, c'est-à-dire de défense de ces populations dans l'Essonne, c'est-à-dire aussi, précisons-le, dans le département de Manuel Valls. Donc, ce n'est pas un hasard si nous disons un peu les mêmes choses. C'est que, en fait, ce que nous proposons dans ce livre, c'est de recueillir ces expériences qui sont aujourd'hui vécues très souvent de manière local. On a l'impression que c'est à peine de la politique parce que ce serait juste la gestion municipale de tel ou tel problème, d'où notre sous-titre, une politique municipale de la race. Mais justement, c'est une politique de la race qui se joue au niveau de la France tout entière, voire au niveau européen. Et c'est important de le rappeler à la veille des élections européennes. Aujourd'hui, on a quelque chose qui, sur le terrain, apparaît parfois presque incompréhensible, tellement c'est irrationnel, mais qui renvoie à la rationalité perverse d'une politique de la race.
Et alors, en quoi cette politique de la race s'inscrit-elle dans ce dont on a parlé auparavant, qui est cette politique néolibérale, ce renoncement de la gauche plus générale ?
Effectivement, c'est une des hypothèses que nous proposons pour comprendre ce qui est en train de se passer et qui fait le lien entre les deux livres dont nous parlons aujourd'hui, celui sur la gauche et celui sur les Roms. Le lien, c'est que on peut considérer que les Roms sont aujourd'hui l'envers du néolibéralisme. Parce que on peut se demander pourquoi, après tout, cette persécution contre des populations qui ne représentent pas une menace considérable. Il y a des pauvres, ils sont parqués dans des bidonvilles. En quoi est-ce que c'est perçu comme, selon les termes de Manuel Valls, quelque chose qui menacerait une confrontation avec notre culture ?
J'en profite juste pour rappeler aussi qu'ils sont en plus, on l'a souvent dit, bien moins nombreux en France que dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, voilà. Où ça pose moins de problèmes.
Alors les Roms dont on parle, c'est-à-dire les Roms des bidonvilles, qui d'ailleurs ne sont pas toujours Roms, on peut considérer qu'en France, en gros, il y en aurait 18 000. C'est un chiffre à peu près constant malgré les expulsions qui se sont multipliées. C'est-à-dire qu'on a beau les persécuter, en fait, c'est à peu près toujours le même nombre. L'année dernière, il y a eu 20 000 personnes chassées de leur bidonville, c'est-à-dire plus que le nombre total de personnes vivant dans des bidonvilles. Autrement dit, chacune a été expulsée en moyenne plus d'une fois, et certains plusieurs fois. Donc, pourquoi cette population pose-t-elle problème ? Non pas par le nombre, parce que, je le rappelle souvent, parce que il me semble que c'est éclairant, 18 000 Roms pour 36 000 communes, ça veut dire un demi-Rom par commune, ça n'est pas quelque chose qui expliquerait à soi seul les réactions politiques autour de cette question. Donc pourquoi est-ce que c'est autant un problème ? L'hypothèse donc que nous proposons, c'est que dans un monde déterminé par la valeur, les Roms, aujourd'hui, apparaissent comme ceux qui n'ont pas de valeur. Très littéralement, des vauriens. C'est vrai, du point de vue de ceux qui, bien sûr, les rejettent, parce que ils ne sont pas sur le marché du travail. Ça n'est pas un hasard, bien sûr, puisqu'ils en sont exclus et qu'ils en ont été exclus par les mesures transitoires, indépendamment même des discriminations quotidiennes. Mais c'est vrai aussi parce que leurs activités économiques telles que nous les voyons, elles sont en quelque sorte extérieures à l'économie, qu'il s'agisse de la mendicité, ou qu'il s'agisse de la rapine, ou qu'il s'agisse de revendre de la ferraille, ou de revendre des vieux vêtements. On est aux marges, radicalement aux marges de l'économie, c'est ce qui n'a pas de valeur. Et donc, l'hypothèse, c'est que on persécute les Roms parce qu'ils sont en quelque sorte l'envers d'un monde entièrement fondé sur la valeur. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, on les jette comme des déchets. Et ça n'est pas un hasard si la politique des ordures et la politique des excréments est au cœur de la gestion politique locale des populations Roms. Donc, on les renvoie du côté des déchets, on les fait vivre à côté de décharges publiques. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas seulement jetés, ils sont aussi rejetés. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être jugés inutiles économiquement, mais ils ont une utilité politique, c'est celle d'être des boucs émissaires. On se définit contre eux. D'un côté, on les racialise, on les enferme dans une catégorie raciale, comme s'ils étaient d'une nature complètement différente de la nôtre, même si parfois on parle plutôt de culture, mais on les traite comme s'ils étaient pas nous, le contraire de nous, à peine humains, sinon on ne pourrait pas les traiter de manière inhumaine comme on le fait sans se sentir atteint dans sa propre humanité. Donc on les renvoie dans cette altérité, mais ça nous permet, nous, par contraste, de nous dire on n'est pas comme eux. Et ça, c'est un argument politique qui racialise tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les riches comme les pauvres peuvent se dire au moins je ne suis pas Rom.
Alors cette fabrique du bouc émissaire, elle repose aussi en grande partie sur l'idée, sur une justification qui serait il faut les protéger d'elles-mêmes, ces populations-là. Dire qu'elles sont sales, non pas parce qu'on les force à vivre aux côtés de bidonville, mais parce qu'elles sont sales par nature et donc il faudrait les libérer en quelque sorte ou les protéger de leur propre saleté et de la saleté dans laquelle elles vivent parce qu'on les laisse vivre dans ces endroits-là. Mais donc les expulser serait pour leur bien. Et on retrouve un peu ce genre de justification à propos de la prostitution ou à propos du voile.
Effectivement, ça avait été testé dès le début des années 2000 autour de la prostitution par Nicolas Sarkozy qui, d'un côté, prétendait déjà défendre les riverains, c'est-à-dire proposer une nouvelle figure du peuple, une figure populiste de droite du peuple, qui serait les gens qui habitent à côté et qui sont exaspérés. Parce que les riverains nous sont toujours présentés comme exaspérés. Mais d'un autre côté, pour se donner belle apparence, on dit pas simplement qu'on donne voix au ressentiment de certains, les riverains, mais qu'en même temps, c'est pour protéger, hier les prostituées, aujourd'hui les Roms. En même temps, il faut bien voir que si on voulait protéger les Roms, eh bien, on leur installerait des toilettes sèches dans ces bidonvilles, ou un accès à l'eau, ou bien un accès à l'électricité, qui ne soit pas simplement détourné au risque d'avoir des accidents. Ou bien, on ramasserait les ordures pour éviter que les rats n'envahissent ces bidonvilles. On fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on crée un problème à force de maltraiter, de traiter différemment ces populations, de les condamner à une errance qui n'a rien à voir avec un nomadisme culturel, mais tout à voir avec un nomadisme forcé par l'État, on les traite de cette manière et après on dit, vous voyez, il y a un problème, il faut bien le gérer. Mais quand on les expulse, on nous dit qu'on a réglé un problème parce qu'ils vivaient dans des conditions insalubres, mais qu'est-ce qu'ils font le lendemain ? On nous dit qu'il va y avoir des hébergements, mais ce sont des hébergements pour quelques-uns, et pour quelques jours, et souvent très loin, et sans possibilité de faire de la cuisine, par exemple, ou de faire de laver les vêtements. Donc, en fait, on ne résout rien, on est simplement, comme le disait Caroline Godard à juste titre, on repousse le problème, on ne veut plus le voir, on le renvoie un peu plus loin. Donc, en fait, cette politique de la race qui est menée, elle prétend agir face à un problème. En réalité, elle constitue un problème. Elle n'agit pas pour le bien des Roms, il suffit de leur demander ce que, bien évidemment, les pouvoirs publics ne font pas.
Alors, pour cela, elle mobilise trois arguments, on vient d'en voir deux. Le premier, c'est ce concept de riverain qui serait systématiquement intranquillisé par la présence des Roms. Le deuxième, et celui-là, il est massu pour la gauche, c'est de dire, mais on fait ça pour protéger ces populations. Le troisième, juste pour le mentionner, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, on rappelle aussi que quand même dans ces communautés, il y a des dérives mafieuses, des trafics, tout ça. Et là, on a trois arguments qui permettent en permanence d'expulser les Roms. Ce qu'on entend aussi dans l'intervention de Caroline Godard, c'est ce qu'elle nous dit à la fin, c'est que commence à émerger au sein de la population rom de France des bidonvilles, on parle bien de cela, hein, le précise au début, une génération de jeunes qui vont s'organiser, qui vont se battre, dit-elle, c'est les derniers mots. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui, nous, la gauche ? D'ailleurs, je reviens sur la partie reprendre la main à gauche, à ces jeunes qui demain vont essayer de ne plus se laisser faire, qui vont peut-être essayer de s'organiser comme l'a pu le faire le mouvement de l'immigration maghrébine dans les années 70-80 en France. Si demain il y a des jeunes roms qui se laissent plus faire, puisqu'elle l'explique un peu, je l'ai un peu coupé au montage, mais elle explique aussi qu'il y a quand même pas mal de fatalisme dans ces expulsions et que c'est aussi en train de se disparaître, qu'est-ce qu'on a à leur proposer, nous ?
D'abord, le fatalisme, c'est le fatalisme de ceux qui savent qu'ils perdent beaucoup de batailles. Donc c'est quelque chose qui donne à penser à l'ensemble de la gauche, puisque aujourd'hui, quand on est de gauche, on a perdu beaucoup de batailles depuis un certain nombre d'années. Donc il n'y a pas que les Roms, même si bien sûr leur situation est d'une difficulté incommensurable avec celle de la plupart d'entre nous. Donc qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Eh bien, je trouve que ce qui s'est joué tout récemment autour de l'inscription des Roms sur les listes municipales est un révélateur. La question n'est pas tant de les considérer comme différents que de se dire qu'après tout, ils sont européens. La raison pour laquelle ils sont persécutés aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont européens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement les renvoyer dans des charters comme on le fait pour les Africains. Du coup, on est obligé de leur rendre la vie impossible, de leur faire une vie invivable. C'est cela que nous essayons de décrire comme une technique qu'on pourrait qualifier d'auto-expulsion, c'est-à-dire qu'on les amène à choisir librement de partir tellement les conditions qu'on leur fait sont mauvaises, dans l'espoir, du point de vue des pouvoirs publics, que ces conditions soient pires encore que celles qu'ils subissaient dans leur pays d'origine, alors même qu'ils y étaient victimes de discrimination et aussi d'une très grande pauvreté. C'est d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'opposition entre la question des discriminations et celle de la classe, les Roms sont un exemple très parlant du fait que l'un n'empêche pas l'autre et que donc on a intérêt à réfléchir les deux. Mais cette politique d'auto-expulsion, elle était résumée à mon sens et à notre sens par la phrase de Gérard Collomb, le maire PS de Lyon, qui au lendemain d'un incendie qui avait coûté la vie à deux femmes roms et à un adolescent, eh bien avait dit il ferait quand même mieux de rentrer chez eux pour vivre plutôt que de venir mourir ici. On voit bien la logique politique de ce discours. Alors, ce qu'on a à leur dire, c'est que ils sont européens, autrement dit, ça n'est pas une raison de les persécuter, mais c'est une raison de ne pas les persécuter. Et c'est une raison de se dire que puisqu'on ne va pas s'en débarrasser, on ne va pas les exterminer, on ne va pas les chasser hors d'Europe, on ne va pas fermer les frontières pour seulement les populations roms, parce que ça voudrait dire qu'on introduit officiellement au cœur de l'Europe une logique de race, c'est-à-dire qu'on renoue avec les années 30 officiellement et plus simplement en pratique. Eh bien donc, ce qu'on ne fera pas, c'est s'en débarrasser. Donc à partir de là, ce qu'il y a à penser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans une société où il y a aussi des pauvres. Et aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est on a déjà suffisamment de pauvres comme ça, on ne peut pas s'occuper de ces 18 000-là en plus. Il y a des millions de mal logés, que faire pour ces quelques-uns en plus? Il faut retourner la logique. Précisément, si on commence à dire qu'on ne peut rien faire pour 18 000, eh bien sachez qu'on ne fera rien pour les millions de mal logés ou de sans-abri en France. Donc il faut aussi s'occuper des Roms, parce que si on ne peut même pas faire cet effort-là, ça veut dire qu'on ne fera aucun effort. Donc ce n'est pas simplement qu'est-ce qu'on a à leur dire, mais qu'est-ce que leur existence en tant que problème, en tant que question, dit à la gauche. Elle dit que renoncer sur les Roms ne fera rien pour les autres, mais en revanche, entérinera l'idée qu'on n'a pas les moyens de lutter contre la pauvreté et qu'il vaut mieux la persécuter plutôt que la réduire en œuvrant contre les inégalités.
Et donc, renoncer sur les Roms serait le premier des renoncements et des autres renoncements dont on a parlé.
C'est effectivement, pour moi, la clé. C'est-à-dire que si la question Roms renvoie à, aujourd'hui, la politique néolibérale, eh bien, c'est pas simplement qu'il faut être ouvert, généreux, tolérant aussi vis-à-vis des Roms, c'est que c'est un combat par excellence, si on veut refuser les termes d'un néolibéralisme qui exclut, qui persécute ceux qui sont réputés n'avoir pas de valeur.
Éric Fassin, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes l'auteur de « Gauche, l'avenir d'une désillusion » qui est paru aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique et que vous avez contribué à l'ouvrage « Roms et riverains, une politique municipale de la race » avec Éric Fassin, c'est vous, Karine Fouteau, Serge Guichard et Aurélie Windels, paru aux éditions La Fabrique.
Merci.
Lecture critique, un peu d'actualité éditoriale.
On va donc parler maintenant ouvrage, lecture, pensée critique, actualité éditoriale des pensées critiques. Emmanuel, qu'est-ce que tu as lu ce mois-ci?
Alors ce mois-ci, j'ai été un peu gourmand, je vais vous parler de deux bouquins en fait, contrairement à d'habitude. Le premier concerne un sujet qui au fil des jours et des semaines disparaît insensiblement des radars de l'actualité mainstream, des manchettes et des unes, il s'agit de la Syrie. Le pays est pourtant entré au printemps dans sa troisième année de guerre civile. Une guerre déclenchée, on s'en souvient, après la brutale répression par le régime Assad du mouvement de révolte débuté en mars 2011 dans la foulée des soulèvements tunisiens et égyptiens. Le livre s'appelle « Pas de printemps pour la Syrie ». Il est sorti en décembre dernier à La Découverte. C'est un collectif dirigé par les chercheurs François Burga et Bruno Paoli, tous les deux passés par l'IFPO, l'Institut français au Proche-Orient. On y retrouve une trentaine de contributions écrites par des chercheurs et ou journalistes et ou spécialistes de la région qui tous éclairent et donnent des clés sur différents aspects, stratégiques notamment, mais aussi géopolitiques de la crise. À défaut de se faire une opinion tranchée sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire aujourd'hui en Syrie, ce qui est bien compliqué, ce livre permet déjà de tracer les contours précis des acteurs en place, des divers enjeux, des jeux de puissance, etc. Un livre pour ne pas oublier la Syrie, donc, qui pourra être avantageusement complété par la lecture d'un article de Yazed Saïg, récemment traduit et publié sur le site Orient 21, intitulé « Mélancolie syrienne ». Lui éclaire de façon beaucoup plus succincte l'actualité toute récente du conflit. Une actualité marquée à la fois par l'éclatement qui perdure au sein des forces opposées à Assad, rendant pour l'heure extrêmement compliquée une reconfiguration politique efficace de cette opposition, et par la persistance des contraintes de l'agenda régional, de Tel Aviv à Téhéran en passant par Riyad, qui continue de peser énormément sur le dossier. Avec en ligne de mire des élections qui vont se dérouler début juin en Syrie et qui devraient voir la réélection entre guillemets d'Assad à la tête du pays. Voilà pour le premier bouquin, ça s'appelle donc « Pas de printemps pour la Syrie », c'est paru aux éditions La Découverte. Le second dont je vais vous parler plus brièvement n'a absolument rien à voir avec le Proche-Orient, quoique. Il s'agit du dernier livre de Roger Martelly, intitulé « La bataille des mondes ». Historien, essayiste, figure de la gauche communiste et radicale, Roger Martelly est aussi le co-directeur de la rédaction de Regard, que vous connaissez bien, Éric Fassin, puisque vous y avez longtemps tenu chronique.
Emmanuel aussi, tu as travaillé.
J'ai aussi travaillé. Et donc, Éric Fassin, si vous ne l'avez déjà lu, cet ouvrage vous intéressera peut-être, puisque comme c'est le cas de la totalité de la production de Martelly, il entend avant tout apporter sa pierre à la reconstruction d'une pensée au sein de la gauche française. En s'intéressant cette fois à la question de la mondialisation, un terme qu'il embrasse d'emblée dans sa double complexité, à la fois de réalité tangible et d'idéologie, tout en le plaçant principalement dans une perspective historique assez courte, finalement de 30 ans. Décapitaliser plutôt que démondialiser, nous propose l'auteur, et passer de la mondialisation à la mondialité, ce terme glissé dans le débat il y a quelques années par le poète Édouard Glissant, et à la non-mondialisation ou à la démondialisation, préférer la mondialité du bien commun. Voilà, plume alerte, propos engagés, complexité assumée, c'est un bouquin stimulant que je conseille à tous ceux qui veulent réfléchir le monde à gauche. Il est paru aux éditions François Bourin, il coûte 16 €. Voilà, pour ce mois-ci, Nico.
Et moi, je vais vous parler d'un bouquin qui est paru aux éditions Charles-Léopold Meyer, de David Bollier. Ça s'appelle « La renaissance des communs pour une société de coopération et de partage ». On parle beaucoup de communs ces temps-ci autour du bouquin de Dardot et Laval, « Communs », paru aux éditions La Découverte. Et celui de David Bollier, il est écrit par un des infatigables militants des communs depuis de nombreuses années. Les communs, vous savez, sont tous ces éléments qui n'appartiennent ni au marché, ni à l'État, et qui permettent justement de remettre en cause la dichotomie privé-public, qui permettent de sortir de cette opposition qui ne fonctionne pas pour un certain nombre de choses, puisque pour la gestion de ressources naturelles, pour la gestion de certains biens partagés, eh bien l'État comme le marché ne sont pas en mesure de garantir une utilisation durable et soutenable de ces ressources. Et d'ailleurs, en fait, ce que dit David Bollier, c'est que les communs, ce ne sont pas des ressources. Ce sont des ressources plus des communautés, plus des normes ou un ensemble de contraintes sur leur utilisation. Et David Bollier aussi rompt un peu avec cette idée d'une tragédie des communs. C'est un texte célèbre de Garrett Hardin qui dit qu'au fond, les communs sont voués à disparaître parce qu'il n'y a rien qui permette de les utiliser durablement. Il s'inscrit en faux avec ça et montre au contraire, à partir de son expérience très concrète des pratiques autour des communs, que c'est une alternative viable et que c'est peut-être une source pour renouveler la manière dont la gauche s'organise, se pense et revendique. Peut-être qu'il faut cesser de revendiquer une partie des choses en termes de services publics et de demandes d'État, mais accepter aussi les formes d'auto-organisation, de coopération auto-organisée, de reconnaître la valeur de ces formes de coopération. Et cet ouvrage, en fait, constitue un récit partagé qui permet de reconnaître les affinités entre différentes manières de faire commun, entre différentes manières qui vont du logiciel libre à un écosystème, à une ressource naturelle, des communs qui sont, pourquoi pas, l'avenir de nos utopies de gauche.
Lecture critique, un peu d'actualité éditoriale. Critique,
critique.
C'était Critique sur Radio Grenouille avec Eric Fassin aujourd'hui, une émission proposée et animée par Emmanuel Riondet et Nicolas Héringer, réalisée par Jean-Baptiste Imbert, appui à la réalisation Emmanuel Morera. On se retrouve dans un mois avec comme invité Saïd Bouamama, et d'ici là vous pouvez vous rendre sur le site web de l'émission, vous aurez un petit bonus, on discute de Thomas Piketty avec Eric Fassin. Bonne journée.
Critique. Chaque mois sur La Grenouille, un auteur ou une auteure vient débroussailler en votre compagnie un champ de la pensée critique.
Critique. Un champ qui résonne avec l'actualité marseillaise.
Une émission proposée et présentée par Nicolas Héringer et Emmanuel Riondet.
À écouter maintenant dans tous vos états critiques.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. RadioGrenouille.com